Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Le titre et la couverture interpellent un enfant déguisé en zèbre et une femme, sa mère peut-être, qui lui met ou enlève la tête de son costume de zèbre, plus une bulle qui contient la parole de l'enfant. Je suis un zèbre, et alors ? Voilà qui excite la curiosité, amuse, interroge. L'auteur de cet ouvrage est là pour nous éclairer. Catherine Viesse-Dufaux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes infirmière de formation, vous êtes maman de 3 enfants et la fondatrice et directrice d'une école associative à pédagogie alternative destinée aux enfants à haut potentiel. Et vous êtes membre du réseau Arborescence. Nous allons parler de tout cela. Alors, un zèbre, c'est un bel équidé, mais encore, qu'est-ce que c'est qu'un zèbre ?
Un zèbre, alors le mot zèbre vient de Jeanne Siofachin, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur les hauts potentiels, et c'est elle qui en a parlé pour la première fois en ces termes, parce qu'elle dit que ce sont les seuls animaux sauvages qui n'ont jamais pu être adoptés. Ce sont les seuls qui, quand ils sont dans la savane, on les voit énormément, mais quand ils sont en groupe, ils se fondent dans la masse et ils n'ont pas du tout jamais les mêmes rayures. Ce sont tous des rayures uniques.
Tous donc, différents.
Voilà, tous différents et en même temps qui se ressemblent un peu tous et qui font surtout, qui se sentent donc décalés par rapport à la savane et au paysage.
D'accord. Alors, vous avez parlé de haut potentiel. Qu'est-ce qu'on entend par haut potentiel ?
Haut potentiel, ça veut dire, aujourd'hui, on le définit par un quotient intellectuel supérieur à 130, un quotient intellectuel total. Il y a des littératures qui disent à partir de 125. En tout cas, c'est certain que c'est un test qui est un test psychométrique qui est fait avec des professionnels, des psychologues, des neuropsychologues qui testent les enfants et qui font passer donc... on calcule le QI. Aujourd'hui, le haut potentiel est défini par ce chiffre. C'est un peu contesté, puisque c'est un peu plus que ça quand même, et que les personnes haut potentiel ne sont pas que des chiffres. D'ailleurs, je le dis aussi dans le livre, c'est aussi toute une personnalité, tout plein de spécificités et de fonctionnements différents. Donc ce sont des enfants, enfin, des personnes, mais donc des enfants, puisque moi je parle des enfants, qui ont une hypersensibilité extraordinaire, qui ont un sens de la justice très très aiguisé, qui ont une capacité d'analyse et de réflexion très particulière, qui ont une capacité à faire des liens aussi énormes, très très rapides, et même souvent un peu étonnant. C'est pour ça qu'on appelle une pensée en arborescence. Maintenant, on sait que avec les études, la pensée n'est pas réellement en arborescence, mais par contre, elle va tellement vite qu'on a l'impression que ça part dans tous les sens.
Vous voulez dire qu'ils font des associations d'idées, par exemple, très rapides ?
Très rapides, exactement.
Ah, oui.
Énormément, oui, voilà. D'accord. Donc, on a l'impression qu'ils passent du coq à l'âne, alors que finalement, c'est très, très logique quand on réfléchit avec eux et quand on revient sur leurs pensées. Ils nous racontent et ils savent, ils arrivent à faire le cheminement. Mais ils le font tellement rapidement que des fois, quand on est en phase 2, on se dit, mais c'est... Oui, c'est pas très cohérent ce que tu es en train de dire.
D'accord. Et en fait, donc, haut potentiel, c'est-à-dire un QI élevé, mais avec plusieurs choses que vous venez de présenter, ce sont des choses que je dirais en plus. Est-ce qu'ils ont des choses en moins ? Un équilibre peut-être difficile à acquérir, non ?
C'est, oui, alors c'est pas en moins, mais ce qui est certain, c'est que leurs choses en plus font que parfois, ils se sentent en difficulté dans un monde qui, des fois, soit ne les comprend pas, ou tout du moins qu'eux ne les comprennent pas. Eux ne comprennent pas forcément le monde qui les entoure.
Et difficulté donc, peut-être à être accepté parfois, non ? par
oui,
les autres.
Et puis ce sentiment, eux, aussi de décalage de toute façon par rapport aux autres, ça c'est certain, ils l'ont tous, et forcément ils se sentent rejetés aussi, ce qui est souvent le cas, hein, parce que c'est vrai que ce sont des enfants qui ont vraiment des réflexions un peu hors normes. Après, des choses en moins, vraiment au niveau relationnel, où c'est vrai que les relations à l'autre, la relation à l'autre est très difficile. Oui. Oui. Et c'est des choses qu'il faut qu'ils apprennent, parce que ce n'est pas inné. Ils n'arrivent pas à comprendre comment fonctionnent les autres, comment fonctionne la relation, comment on fait pour être amis. Ça, ce sont des choses qu'ils ont du mal à comprendre.
Tous ?
Non, évidemment.
Oui, voilà. Chaque cas est peut-être plus différent.
Oui, oui voilà, quand même tous leur particularité quand même. Mais tous quand même ont ce sentiment de décalage. Ça, oui. Alors, moi, évidemment, à l'école, j'ai beaucoup d'enfants qui se sentent en décalage puisqu'ils viennent dans cette école aussi pour une raison. Mais j'en ai qui se sentent bien et qui sont bien dans leur peau. Et malgré tout, quand on parle avec eux, ils ont ce sentiment de décalage envers les autres.
Alors, nous parlerons de cette école, justement. Mais ma question, Catherine Viesse-Dufaux, qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de ces enfants à haut potentiel ?
C'est tout bête. C'est parce que je suis maman et que donc forcément mes enfants sont à haut potentiel. Donc je suis rentrée vraiment dans ce monde-là par mes enfants.
Et qu'est-ce qui vous a alerté justement ? Parce que, du moins à mon époque, quand j'avais des enfants jeunes, on ne parlait pas de cela. Il n'y avait pas de tests, sauf s'il y avait des problèmes majeurs.
C'est vrai. Alors que mes enfants n'avaient pas de problèmes majeurs d'ailleurs, donc vous avez raison. Mais j'ai la chance d'avoir une extraordinaire pédiatre. Et c'est elle qui m'en a parlé la première, mais très 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 tôt, mon fils, j'ai trois enfants, donc j'ai une grande fille qui a 13 ans, mon fils qui a 11 ans et demi et une petite qui a 6 ans. Et mon fils qui a 11 ans et demi, à 18 mois, elle m'a dit vous devriez peut-être penser à ce que votre fils et vos enfants soient haut potentiel. Alors elle était spécialisée.
À 18 mois, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose de différent.
Oui. Ah, oui. On parle même, il y a des études qui sont faites même sur des bébés. On parle de bébés précoces parce qu'ils ont une capacité, par exemple, d'observation. Ce sont des enfants qui scannent. Je parle de scan, vraiment ça, scanner, qui scanne énormément l'entourage, l'environnement. Ce sont des enfants qui ont besoin pour se rassurer avant d'être dans l'observation et après ils peuvent accéder à la relation ou à se rassurer par rapport à l'environnement. Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous a incité à écrire cet ouvrage ? Alors, je précise qu'avec la collaboration d'un illustrateur, parce que cet ouvrage est très illustré, donc je dis aux parents et même aux enfants, aux jeunes qui nous écoutent, vraiment, Mathias Rebuffet a fait une illustration souvent très drôle, en tout cas très vivante, et ça supporte bien le texte, ou inversement, le texte est bien supporté, enfin, je ne sais pas comment, les deux s'imbriquent. Finalement. Ce mode d'emploi, en fait, s'adresse à qui ?
Au départ, j'ai écrit ce livre pour les enfants parce que finalement, j'avais beaucoup de parents qui venaient me trouver et qui me demandaient des lectures. Il y a énormément d'ouvrages sur le sujet, mais il n'y avait pas de livre qui s'adressait réellement aux enfants, comme je peux le faire, par exemple, dans mon bureau aux enfants. Donc je me suis dit, ça manque. Donc effectivement, des enfants qui ne sont pas dans l'école ou qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un accueil spécifique, qu'ils puissent trouver un livre, un peu un livre ami, j'appelle ça un livre qui est leur copain, à qui ils parlent, et que ce livre parle pour dire, tu es comme ça, regarde, il y a des spécificités, lis ce qui se passe, et puis après tu peux en faire quelque chose. Il y a des petits exercices, il y a des petits outils, et ce sera cette boîte à outils que tu pourras retrouver dès que tu en as besoin. Donc, par exemple, je m'étais dit, un enfant qui se sent pas bien, qui a passé une journée pourrie à l'école, revient chez lui, dans sa chambre, sur son lit, hop, il va chercher le livre, il se dit, tiens, c'est vrai, le prof, là, il m'a énervé. Qu'est-ce qu'il se dit, d'ailleurs, là-dessus, sur les normes, sur le sens de la justice ? Et là, du coup, quelques petits outils pour les apaiser. Il y a aussi des méditations qui peuvent réécouter avec des flashcodes. Voilà, l'idée, c'était vraiment de faire une boîte à outils pour l'enfant.
D'accord. Alors, justement, pour les enfants, quand même, à un âge donné.
Oui, alors la cible, c'est vraiment 7-8 ans jusqu'à 14-15 ans. D'accord. Mais ce qui est étonnant et ce que je trouve génial dans ce livre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de retours de parents. qui me disent que finalement, eux l'ont lu aussi avec les enfants. Donc ça, c'est génial parce que c'est un livre qui crée du lien, qui, avec qui on parle avec l'enfant au repas et puis on échange des points de vue. On fait des exercices ensemble, donc ça, c'est super. Et les parents me disent, eh bien, en fait, moi, j'ai appris plein de choses et c'est génial aussi pour les parents, finalement.
Oui, oui, alors moi-même qui l'ai lu, j'ai appris plein de choses, justement. Et alors, j'insiste sur le fait qu'il est très attrayant. Alors, évidemment, bon, pour les parents, mais je pense que pour les jeunes, et effectivement, il n'y a pas la lourdeur d'un texte uniforme. Non, il y a beaucoup de dessins et souvent des dessins très amusants avec des bulles, avec des et ceux qui mettent en scène des enfants, bien entendu.
À chaque chaque partie, au départ j'ai écrit des scènes de la vie quotidienne, enfin de la vie quotidienne à l'école arborescence ou dans les familles avec des enfants à haut potentiel, donc ce qui n'est pas le quotidien de tout le monde, on est d'accord, mais je les ai écrites de façon un peu ludique, et Mathias, l'illustrateur, il les a repris et en a fait que des planches de BD. Et c'était l'idée, en fait. L'enfant rentre dans les livres avec les planches de BD parce qu'il se retrouve dans cette planche-là plus que dans une autre, et après, il rentre dans le texte et à ce moment-là, il peut aussi l'aider avec les outils.
Oui, et je crois que c'est vrai que pour les parents, ça, il a un rôle important.
Oui, vraiment. Parce que déjà, ça dédramatise. En tout cas, j'espère. C'était mon but.
Et est-ce que, oui, ça leur permet peut-être de comprendre enfin comment fonctionne leur enfant.
Oui, et de dire, ben, finalement, alors moi, je pensais qu'il n'était pas normal, mais finalement, il n'y a rien de grave là-dedans. Et puis, tout va bien. Et puis, il suffit juste de changer quelques petites choses dans le quotidien. Et ça peut rouler, ça peut aller. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un livre qui aide, j'espère, au quotidien de toutes les familles et qui aide à l'apaisement. Il y a aussi des petites cartes des émotions à télécharger.
Alors, on va en parler en détail. Parce que tout à l'heure, j'ai eu le temps de dire qu'est-ce qu'ils ont en moins. Mais justement, c'est un livre qui montre les points positif. Mmh. Et finalement, avec les jeunes, c'est ce qu'il faut faire. Mmh. Hein, moi, j'ai toujours regretté qu'on compte le nombre de fautes dans un texte, alors que parfois, on peut avoir un zéro, malheureusement, avec 5 fautes, alors qu'autrefois, avant, on faisait 10 fautes. Donc, il y avait un progrès.
Mmh. Oui, alors ça, complètement, oui. On en parlera aussi peut-être avec l'école, mais effectivement, ça, c'est quelque chose que je partage énormément, oui. On ne parle pas des fautes. Et l'adulte ne va pas aller dire... ça c'est pas bien, ce que tu as fait ça ne va pas, et finalement c'est un peu ce que la société renvoie tout le temps aux enfants, partout on renvoie que le négatif. Mmh. Et forcément les enfants se sentent nuls, se sentent dévalorisés en permanence parce qu'ils ne savent même pas quelle est leur valeur, et donc à l'école en tout cas nous on travaille énormément la motivation interne. Il n'y a pas de notes, c'est l'enfant qui va progressivement apprendre à travailler pour lui et rien que pour lui. Pas pour papa et maman, pas pour l'adulte en face, pas pour la directrice, personne, que lui.
Oui, c'est un peu ce qui se fait aux États-Unis où on a tendance à valoriser les jeunes, en fait.
Oui, mais honnêtement, je pense que c'est l'avenir. Et là, sur le, vraiment, il faut en arriver là, hein,
oui,
ça
oui,
c'est certain.
Tout à fait. Alors, est-ce que si un jeune dit « je suis un zèbre », ça ne va pas paraître, ou si un parent dit « moi, mon enfant a HP », les gens ne vont pas regarder ça comme de la prétention. Ça arrive, non ?
Ça arrive souvent, très souvent. Ça arrive moins souvent qu'avant. Je trouve que c'est plutôt positif. Oui. C'est ça que je retiens.
Il y a un progrès.
Il y a un progrès, oui. Il y a une évolution parce que les gens en entendent parler de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y a régulièrement des accueils qui sont difficiles. Et d'ailleurs, les parents qui sont chez nous, à l'école Arborescence, souvent me disent « on n'en parle pas à la famille, on n'ose pas ». Parce que justement,
on va dire,
c'est
il
mal
se monte le col.
Oui, c'est ça. Oui. C'est mon enfant est un petit génie. Ou alors, mais même dans l'éducation nationale, hein, on en entend aussi beaucoup. Hein, ou tous ces parents qui pensent que leurs enfants sont des génies. Alors qu'honnêtement, ça n'a vraiment rien à voir. Les génies, ça existe, hein, les vrais génies fulgurants de partout.
Remarquez, Einstein était catalogué mauvais élève.
Cancre.
Hein.
Oui, c'est ça, exactement. On en parle souvent à l'école, d'ailleurs, pour leur dire.
Oui. Ils se sentent différents des autres, vous avez dit tout à l'heure. Ça signifie qu'ils sont facilement exclus ou ils sont eux-mêmes un peu en retrait ? d'un groupe ?
Je pense que les deux, oui, complètement. Ils sont souvent exclus dans un monde, entre guillemets, le vrai monde, ce que j'appelle, moi, à l'école, parce qu'évidemment, à l'école, c'est un monde un peu à part, puisqu'ils sont tous pareils. Donc, on crée un petit cocon rassurant pour eux. Mais effectivement, c'est ce qu'ils disent. Ils se sentent exclus vraiment. Et en plus, ils s'excluent d'eux-mêmes, de fait, parce qu'ils ont du mal à comprendre, parce qu'ils se sentent rejetés. Donc plus ils se sentent rejetés, finalement, plus ils s'isolent et moins ils comprennent ce que l'autre veut leur dire ou leur faire dire. Parce que les implicites sont très difficiles aussi. Ils ont du mal à comprendre ce qu'on ne veut pas dire, c'est-à-dire ce qu'on ne dit pas.
D'accord. Oui, il y a une expression qui est très péjorative quand on dit c'est un drôle de zèbre. Mais est-ce que dans cet ouvrage, j'ai l'impression que vous expliquez plutôt que c'est une chance plutôt qu'un handicap ?
Oui, ah mais alors j'en suis complètement convaincue. Oui, au tout début où je suis rentrée dans le monde des zèbres, j'ai été choquée par les réactions des parents, justement, d'ailleurs, ou des parents d'enfants. Je suis allée dans des groupes de parole ou dans des conférences. Et à chaque fois, il y avait des parents qui, même en pleuraient, hein, de souffrance. Alors, effectivement, c'est un monde où il y a quand même beaucoup de souffrance. Et qui parlaient de handicap, qui parlaient de maisons de MDPH, et qui disaient, voilà, mon enfant est malade, mon enfant ne va pas bien, c'est horrible, on ne pourra jamais rien en faire. Et c'est quelque chose qui, effectivement, m'a choquée dès le départ, en fait. Parce que moi, j'ai toujours pensé que mes enfants, c'était un vrai cadeau du ciel, et je suis plus qu'heureuse que mes enfants soient au potentiel. Je trouve que c'est merveilleux. On peut faire des choses sublimes avec eux. Ils comprennent tout au quart de tour. Ils sont intéressés par absolument tout ce qu'on leur propose. C'est génial. Après, il y a des petits ajustements.
Et oui. Alors, justement, beaucoup en sont abîmés, comme nous disions tout à l'heure. Est-ce que c'est du fait des parents, du fait de l'école, parce qu'il faut dire que certaines écoles ou certains enseignants, pas tous, mais ne comprennent pas ou n'essaient pas de comprendre, certains sont abîmés quand même.
Oui.
Et là, ça donne des résultats catastrophiques. Ça peut donner des résultats catastrophiques.
Et plus on attend, et plus c'est dur à récupérer. Quand ils sont... Déjà, selon effectivement les enseignants, hein, parce que les enseignants font absolument ce qu'ils peuvent et avec les moyens qu'ils ont, ça c'est évident. Mais certains enseignants, effectivement, ne comprennent pas comment ils fonctionnent. Et ça renvoie à beaucoup de choses.
C'est difficile aussi de s'occuper d'un enfant qui est totalement différent. C'est peut-être difficile pour l'enseignant quand il a face à lui tout un groupe d'autres enfants.
Oui, c'est difficile. Et en plus, réellement, je pense que ça renvoie à beaucoup de choses chez beaucoup de personnes. Il y a des transferts forcément qui se font. Et ça fait presque peur de se dire que ces enfants sont différents. Ou alors, il y a tout l'imaginaire aussi derrière. Au potentiel, donc c'est un petit génie. Donc, il est plus intelligent que moi, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a tout ça, je pense.
Oui, puis c'est un outsider, il est en dehors de la société bien conformiste.
Et il ne rentre pas dans le moule, et il ne veut pas. Et puis alors en plus, il refuse de le faire, parce qu'il y en a beaucoup qui refusent aussi de rentrer dans le moule, qu'ils ne comprennent pas.
J'ai lu parfois qu'on dit que l'enfant surdoué est souvent trop intelligent pour être heureux.
Oui. Oui, alors je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, c'est aussi Jeanne Siofach, hein, qui du coup a écrit ce livre de ce titre-là. Trop intelligent, moi je pense qu'on n'est jamais trop intelligent pour être heureux et qu'on peut être heureux tout le temps, mais effectivement l'idée c'est quand même de se dire, mais oui, trop intelligent pour rentrer dans cette société, pour rentrer dans les codes, pour rentrer dans tout ce que la société nous impose, ça c'est certain, hein. Ils sont en colère tout le temps, ces enfants-là et ces adultes, si on les prend pas en charge, et si on leur explique pas avant de dire, oui c'est vrai, on va te demander de rentrer dans ce moule. D'accord, mais je vais t'expliquer pourquoi on te demande ça. Et qu'est-ce que tu vas en sortir là-dedans et comment tu vas pouvoir être heureux dans ce moule-là si tu décides ou pas d'y aller. De temps en temps, tu peux y aller, de temps en temps, tu peux ne pas y aller. Mais voilà qu'est-ce qui se joue. Et à partir du moment où on leur explique ça quand ils sont petits, enfin jeunes, en élémentaire, collège, mais ils sont complètement capables d'être heureux. Mais je pense qu'ils sont trop intelligents pour être heureux si on n'est pas pris en charge, en gros.
Oui, c'est-à-dire que je vois à la fois le travail, les parents, l'amour des parents, disons-le, bienveillance, l'attention, et également le rôle de l'école, évidemment.
Oui, mais c'est évident. Il faut que ça évolue.
Oui, parce que on dit d'un adulte surdoué qui n'est pas forcément doué en tout. C'est valable pour les enfants.
Complètement. À l'école, on appelle ça avoir des talents. C'est notre petit mot. Et ces enfants-là ont des talents. Ils ne sont pas doués partout. Ils sont même des fois avec des grosses lacunes sur certains points. Mais par contre, ils ont toujours au moins un talent. Et souvent, donc, ce sont des talents artistiques ou sportifs. Et l'idée, c'est d'arriver à les trouver, ces talents. Et quand on les a trouvés, donc de leur faire toucher un peu à tout, mais d'aller un peu plus profondément que juste leur apporter comme ça. Donc la peinture, l'écriture, le théâtre, le sport. Et à partir du moment, les échecs, voilà. À partir du moment où ils ont trouvé leur talent, il faut y aller à fond, à fond, à fond. Et c'est très souvent avec ça qu'ils arrivent à s'en sortir, quand ils ont trouvé leur passion.
Oui, voilà, trouver la passion. À vrai dire, moi, je dirais que c'est valable pour tout le monde.
C'est vrai, complètement, hein? C'est vrai, oui.
Vous avez parlé de d'enfants très émotifs, émotionnellement. Justement, cette instabilité émotionnelle qui est inhérent à leur personne, est-ce que ce n'est pas difficile pour l'entourage, quel qu'il soit, que ce soit familial ou scolaire?
Ah si, d'autant que les études montrent aussi qu'a priori, il y a quand même des gènes là-dedans, et que donc souvent, quand les enfants sont à haut potentiel, il y en a au moins un des parents, voire les deux, qui le sont. Donc ça fait une espèce de soupe sympathique, émotionnelle à la maison. Donc forcément, ça, c'est très difficile si on n'arrive pas à mettre un petit peu d'ordre dedans.
Oui, oui, je crois que dans votre livre, il me semble que j'ai marqué « Tout est hyper ». Hein,
oui, c'est ça, exactement.
En fait, si j'ai bien compris, il n'est pas plus intelligent, il est intelligent différemment.
Différemment, exactement. C'est ça.
Oui. Il l'utilise d'une autre manière.
Oui. Après, en revanche, ils sont capables de comprendre des choses très, très compliquées. Qu'en termes de classe d'âge, un autre enfant ne comprendra absolument pas. Mais ce qui est drôle, c'est que par contre, sur des choses simples, ils ne vont pas les comprendre. Les consignes simples, ils ne les comprennent pas parce que c'est trop simple. Donc, si on complexifie, là, tout est bon. Donc, c'est vrai que c'est étonnant.
Oui, c'est assez étonnant, oui, je comprends.
Même moi encore aujourd'hui, il y a certains moments où, même si je suis consciente de ça, il y a des moments où je me dis, mais c'est fou, comment ça se fait? C'est incroyable.
Oui. Voilà. Alors, Catherine Viesse-Dufaux, je vous propose une pause musicale. Je crois que nous n'aurons qu'une pause parce que vous avez beaucoup de choses à nous expliquer. Voilà, eh bien, on n'aura qu'une pause musicale.
Je vois dehors des cœurs. c'est le cœur d'Ognier. Oui, je te vois dans ton atelier. Tu répares avec l'innocence d'un enfant. Tu recouds avec le sourire d'un passant. Tu recolles avec la douceur d'une maman. Tu tisses avec du jaune, noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fou, je me dis que le cœur d'Ognier, c'est nous.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà, je suis en compagnie de Catherine Viesse-Dufaux qui vient nous parler d'un ouvrage qu'elle a écrit intitulé « Je suis un zèbre » et alors, illustré, voilà, je cherchais, par Mathias Rebuffet, oui, et un ouvrage très intéressant à lire, très déroutant, parce que il est fait de textes, de jeux, de devinettes, de questions. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment l'avez-vous construit?
Je l'ai construit comme ça, réellement. C'est-à-dire que je suis partie des scènes, comme je disais tout à l'heure, des scènes de la vie quotidienne pour ces enfants-là. J'ai raconté. Et après, sur chaque caractéristique, finalement, de leur personnalité. Et tous les outils et toutes les devinettes, comme vous dites, les questionnaires, ils ont quasiment été créés avant le livre, puisque ce sont des outils que j'utilise au quotidien et que j'ai créés pour l'école. Je l'ai vraiment construit, par contre.
Mais l'aspect, le contenu est très intéressant, en ce sens que on pourrait croire que c'est un cahier de vacances.
Oui, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Oui. Alors, au début, je l'ai mal pris, puis bon, finalement, je trouve ça chouette.
C'est positif. Oui. Non, voilà, il faut que ce soit attrayant.
Oui.
Attrayant. Alors, par exemple,
ça donne envie.
Oui, ça donne envie, exactement. Par exemple, apprendre à distinguer ses émotions de celles des autres, prendre le temps de penser à ce qui est ressenti, distinguer son ressenti de différent de l'environnement. Il y a des questions, il y a des endroits où on demande à l'enfant de réfléchir aussi à ce qu'il est, ce qu'il éprouve.
Oui, énormément. Je pense que l'enfant, et encore plus l'enfant à haut potentiel, est capable de prendre de la distance. Pour pouvoir s'adapter aux autres et s'adapter aux relations, on est obligé de prendre de la distance par rapport aux situations et au monde qui nous entoure. Et c'est ça que j'amène, où j'amène les enfants, quasiment tous les jours et dans beaucoup d'exercices. C'est le seul moyen d'arriver à avoir une vraie vision de ce qu'on a à l'intérieur de nous et de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, effectivement, distinguer les émotions qui nous appartiennent et les émotions qui ne nous appartiennent pas, c'est primordial pour eux, parce que l'empathie, c'est la capacité de ressentir toutes les émotions. Ils les ressentent dans tous les cas. Ils rentrent, alors il y a beaucoup d'exemples, mais on dit que les enfants à haut potentiel rentrent dans une pièce et ressentent toutes les émotions qu'il y a. Mais c'est vrai. Et il faut arriver à distinguer tout ça, à savoir qu'est-ce qui est vraiment de leurs émotions, qu'est-ce qui est l'émotion de papa ou de maman qui viennent de se disputer, et eux, ils le savent pas forcément, mais par contre, ils ressentent ça. Donc après, ils sont pas bien. Il y a ce que j'appelle, moi, ils créent des boules noires, au niveau des émotions. Et tout ça, il faut leur apprendre à se dire, voilà, pose-toi. Et essaye de savoir qu'est-ce que tu ressens réellement, identifie tes émotions et essaye de réfléchir à est-ce que vraiment elles t'appartiennent ou pas. Et si elles t'appartiennent pas, rejette-les, parce que c'est pas les tiennes, c'est celles de papa, c'est celles de maman. Et donc c'est pas ton histoire. Toi, t'as déjà beaucoup à gérer toi-même, alors on va essayer de gérer tes propres émotions.
Alors justement, un jeune qui n'a pas appris à gérer ses émotions, à faire la part des choses, à voir ce qui le différencie, qu'est-ce que ça donne en fait comme résultat ?
Mais ça donne des adultes qui sont un peu paumés et qui du coup se sentent agressés par tout et par tout le monde, qui ne peuvent pas se sentir apaisés puisqu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est à eux, qu'est-ce qui n'est pas à eux. Alors, il y a un magnifique dessin de Mathias, justement, un enfant dans l'univers qui est un peu perdu. Je trouve que c'est une belle image.
Oui. Vous dites, à un moment donné, il devient petit à petit quelqu'un d'autre, et rentre, je parle des jeunes scolarisés, dans un rôle qui va peut-être jouer toute sa vie. Ça peut être le branleur, le chahuteur, le révolutionnaire, le défenseur des autres, etc. Oui, le chahuteur, en tout cas, oui, c'est fréquent. Et parfois, on peut s'interroger pourquoi sont-ils comme ça.
Oui, ce sont des masques qu'ils se sont créés pour se protéger. Parce que ne sachant pas quoi faire et comment faire avec tout ce qu'ils ressentent, ils se donnent des rôles, ils se donnent des masques. Le problème, c'est que le danger, c'est de savoir... ces masques sont très importants dans la vraie vie, on en a tous. Hein, mais il faut savoir les enlever de temps en temps. Et c'est ce que... c'est Monique de Kermadec, je crois, qui appelle ça les faux selfs. Ça devient compliqué quand ils sont complètement intégrés à la personnalité et que l'enfant ou le jeune n'arrive pas à s'en sortir. Oui.
Comment réagit un jeune à qui on dit finalement, écoute, oui, tu es différent en ce sens que tu es à haut potentiel. Comment prend-il cette information ?
Ça dépend des parents.
Toujours, mais c'est vrai.
Oui. Ça dépend de ce qui se joue aussi derrière. C'est vraiment là, c'est très, très hétérogène. Le danger, c'est quand les enfants pensent que le fait d'être à haut potentiel, ça leur donne des droits différents. Ça leur donne le droit de... Moi, j'ai entendu des enfants me dire, moi, je suis précoce, j'ai le droit de péter un plomb. Bon, voilà. Donc ça, oui, c'est vraiment le danger.
Oui.
Après, l'autre danger aussi, c'est l'inverse. C'est de dire, mon enfant est à haut potentiel, donc on le met sur un piédestal parce que c'est un petit génie. Et là aussi, c'est un danger. Parce que si l'enfant pense que c'est un petit génie, et malgré tout, qu'il voit bien qu'il y a des moments où ça ne l'est pas, ce qui est normal, ça peut créer des vraies frustrations et des vrais problèmes derrière, au niveau même de l'estime de soi.
Oui, parce que ses forces, il ne les voit pas forcément.
Ben
c'est
non.
Évident.
Ah non, s'il n'est pas aidé, il ne les voit pas, de fait d'ailleurs. Ils ont une estime de soi qu'il faut vraiment construire et qu'il faut vraiment travailler. Ils ont beaucoup tendance à se dévaloriser parce qu'en plus, ils sont persuadés d'être en comparaison avec tout et tout le monde. Mais surtout des enfants plus âgés d'ailleurs. Donc ils se sentent nuls en permanence. En fait.
Oui, ils ont un sentiment d'échec.
Ah oui, oui, tout le temps. Même la semaine dernière, j'ai un enfant qui est arrivé, qui dessine superbement bien pour son âge, vraiment. Mais il ne dessine pas les dessins en entier parce qu'il est persuadé d'être nul. Donc on a discuté de ça cette semaine et je lui ai dit mais est-ce que tu sais que tu as tel âge, tu as 7 ans et tu dessines comme un enfant de 11-12 ans. Il m'a regardé avec des gros yeux en disant « Ah bon, mais pourquoi tu dis ça ?» Je lui ai dit « Ben oui, donc voilà, effectivement, tu dessines moins bien que papa. Oui, c'est vrai, peut-être, mais voilà, compare-toi à ce que tu peux comparer. »
Oui, alors justement, le livre... sert à quoi exactement ?
Ça, c'est une question piège. Il sert...
à prendre conscience, probablement.
Oui, et surtout à accompagner l'enfant et la famille, finalement, pour faire en sorte que ce soit perçu comme un cadeau du ciel. Et qu'on peut vivre, et on peut vivre très bien, avec des enfants à haut potentiel dans la maison. Et qu'on peut même être très heureux, et peut-être même plus, puisqu'ils sont tous plus, ben voilà, on peut être peut-être plus heureux parce qu'on, grâce au haut potentiel des enfants.
D'accord. Alors, et on trouve énormément de choses. Alors, chaque thème est abordé sous trois angles.
Oui.
Hein, ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire, comment...
Il y a toujours la planche de BD,
oui,
avec la situation vécue où l'enfant va se retrouver. l'explication de ce que c'est comme caractéristique, donc l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, le sens de la justice, enfin, tous les thèmes y sont abordés. Et après, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça ? Maintenant qu'on sait ça, c'est très bien, mais on va essayer d'aller plus loin, parce que c'est bien gentil de savoir plein de choses, mais après, beaucoup de parents me disent « Ok, très bien, mais on en fait quoi ?» Ben voilà, on propose des choses. D'accord. Et on peut faire des exercices.
Oui, et puis vous vous adressez à des enfants, mais vous ne parlez pas bébé, hein, c'est pas du tout.
Non,
du
oui,
tout.
C'est pour ça que, alors ça, c'est pour ça que c'est bien pour les enfants un peu petits de pouvoir le lire avec les parents, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'il va falloir reformuler,
oui.
C'est
oui,
certain.
Oui. Oui. Mais vraiment, je trouve formidable que vous ayez pensé à ce livre pour les parents. Je crois que finalement, tous les parents devraient l'avoir. Parce que même les enfants qui n'en sont pas au potentiel ont besoin de réfléchir parfois justement à leurs émotions.
Ça, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Alors, l'année prochaine, j'espère, si la crise sanitaire nous le permet, il y a un autre livre qui sort de la même maison d'édition, de Bouygues Supérieur, sur les émotions. Et sur, justement, c'est un peu sur le même versant, c'est construit de la même manière, mais c'est que sur les émotions, les ressentis. Et c'est un livre familial aussi, pour tout le monde, pour tous les parents et les enfants.
Et peut-être un jour arriverez-vous jusqu'aux adultes qui ne savaient pas qu'ils étaient au potentiel, ça les aidera peut-être encore, moi j'en suis persuadée.
Ah oui, moi je pense aussi, oui.
Alors, je n'ai pas dit, il y a par exemple un jeu de cartes, vous en avez parlé tout à l'heure, sur les émotions justement.
Oui.
Il y a des exercices audio, voilà. Alors là, on peut les obtenir comment ?
En flashant, c'est un flash code, QR code avec le téléphone.
D'accord, voilà. Et apprendre, j'ai noté apprendre qu'il n'y a ni handicap, ni tare, mais s'accepter comme différent. Voilà. Bon, mais il faudrait également peut-être faire un livre pour ceux qui ne le sont pas et pour qu'ils acceptent ces personnes-là.
Oui,
vous
c'est
voyez,
une idée.
Vous avez beaucoup, vous êtes jeune encore, vous avez encore beaucoup de pain sur la planche.
Ça me va, donnez-moi des sujets.
Alors, dernière chose, voilà, vous avez créé une école. Parlez-moi de cette école. Qui se trouve où ?
Elle se trouve à la Salvetat Saint-Gilles, à côté de Colomiers. Et c'est une école qui fait partie d'un réseau d'écoles nationales. Donc on a une école arborescence, la première école, elle est à Paris. Après, il y a une école à Nantes, une école donc à la Salvetat Saint-Gilles, et une école à Lille qui est ouverte en septembre. Nous, on est ouvert depuis septembre 2016, donc ça fait pas très longtemps.
Oui, 4 ans, enfin, il y a eu le confinement.
Cinquième année, oui. On a beaucoup travaillé pendant le confinement et on a mis en place plein de choses aussi au niveau de l'école. Donc on a pas perdu du tout le contact avec les élèves, voilà. Et on a fait plein de visios, plein de choses différentes. Et on a travaillé sur les médias. On a changé complètement notre programme par rapport au confinement. Justement, on a travaillé sur les fake news, sur tout, pour les éduquer à ça. Bon, bref. Et donc, c'est une école qui a pour but de réadapter les enfants ou d'adapter les enfants pour être heureux dans la société. C'est finalement comme le livre. Et l'idée, c'est de les prendre en charge pendant un temps, petit, avant qu'il ne soit trop tard, entre guillemets, hein. Et de travailler énormément sur la gestion des émotions, leur faire comprendre comment ils fonctionnent, que voilà, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un handicap, mais par contre, effectivement, il faut le prendre en charge, et oui, il y a des choses qui sont différentes. Donc tous ces outils-là, on s'en sert au quotidien à l'école. Et après, on a une pédagogie aussi quand même différenciée qui travaille sur le sens de ce que l'on apprend. On n'apprend pas l'étape de multiplication juste pour apprendre l'étape de multiplication. J'emploie cet exemple très précisément parce que ces enfants ont énormément de problèmes à apprendre les tables de multiplication. Et ça exaspère tous les parents. Mais ce n'est pas grave, ils y arrivent.
Mais autrement.
Autrement, exactement. Et ils s'en sortent dans tous les cas. Et au collège, ils y arrivent sans problème. Mais quand on les apprend pour une raison. On travaille sous forme de projet.
C'est ça. On donne un sens
exactement,
à leur apprentissage.
Et on leur donne envie. Voilà. Et
question
on les
bête, Catherine Bies-Dufaux, c'est reconnu par l'éducation nationale ?
Oui, 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 oui.
Ah,
oui, oui,
bonne nouvelle.
Oui, on est inspecté, on a un numéro. On est reconnu. Par contre, on n'est pas sous contrat. On est une école hors contrat malgré tout. Donc, on n'a aucune aide financière. Donc, hélas, ouais, voilà, ouais. C'est ça qui est, c'est vraiment le gros point.
Peut-être que s'il voit quand même que le succès de votre démarche, peut-on espérer ?
Oui.
Peut-on espérer ? Alors, donc, cette école, vous m'avez dit hors antenne qu'il y avait une quarantaine de jeunes qui étaient, et qui les encadrent. Il y a combien de personnes les encadrant ?
Alors, ça dépend des années. On oscille entre 35 et 50 élèves, selon les années, et on a des classes de 15 élèves maximum. Dans chaque classe, un enseignant. En maternelle, 2, puisqu'ils sont petits, on a une classe de maternelle et 2 classes d'élémentaire. Et après, l'après-midi, on les ouvre pour trouver leur talent, justement. On les ouvre on accueille plein d'intervenants. Donc, on a des intervenants. Actuellement, on leur propose du cirque, on leur propose du théâtre, on leur propose de la peinture,
de la musique.
Oui, exactement. Ils ont fait du slam, là, dernièrement, parce qu'on a travaillé sur un cycle de 3 semaines sur la poésie et l'écriture. Et en musique, ils ont fait du slam. Donc, ils ont adoré ça. Ils sont très, très doués en...
Et les parents participent ?
Non, pas plus que dans une autre école. En tout cas, on ne leur demande pas. Mmh. Mais cette année, c'est vrai qu'on a un groupe de parents très, très acteurs et très, très moteurs, surtout sur l'aménagement de la cour, des choses comme ça. Ils sont très solidaires aussi pour nous trouver des financements, pour faire des sorties, pour aménager, pour... voilà.
Alors, j'ai vu que vous faisiez partie du réseau Arborescence.
Oui.
Donc, c'est toutes ces écoles qui... Oui, c'est ça ? Ou ce sont des associations ?
Non, c'est un réseau d'écoles.
D'écoles.
Donc, on est tous affiliés à l'association Arborescence, mm-hmm. où il y a donc 4 écoles actuellement. Et on travaille tout ensemble. Moi, je travaille avec l'école de Paris, aussi bien qu'avec l'école de Nantes, avec l'école de Lille. On est tout le temps en lien et on se réunis, alors normalement 2 fois par an, là c'est compliqué, mais au moins une fois par an pour un séminaire où on travaille, nous aussi, on se remet en question pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a bien fonctionné, et pour aider à l'échange, et on travaille sur des cycles communs aussi.
D'accord. Alors, votre école se trouve à la Salvetat Saint-Gilles. Mmh. Elle a un nom ?
Arborescence 31.
Arborescence 31.
31.
D'accord. Bien, écoutez, un grand, grand merci. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de l'ouvrage de Catherine Viesse-Dufaux, illustré par Mathias Rebuffet, intitulé « Je suis un zèbre » et alors, tout cela paru aux éditions de Buck. Voilà.
Merci
à vous.
Merci. Au revoir. Thank you.